Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, pour l'interview aujourd'hui que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Donc cette émission aujourd'hui consacrée à Octobre Rose et particulièrement pour une pièce de théâtre qui s'appelle Je t'aime. Et pour nous présenter ce spectacle, à nos côtés, Patty dans le studio. Bonjour.
Bonjour Yves.
Patty, qu'est-ce que sont les féminitudes, si on peut le dire comme ça ?
Alors, on pourrait dire effectivement féminitude au pluriel, parce que je dirais que toutes les femmes qui sont adhérentes à l'association Féminitude que je vais expliquer sont des femmes plurielles. Donc, on pourrait mettre très bien un S à Féminitude. Féminitude est une association que j'ai créée donc en juin 2014, déposée d'ailleurs en votre sous-préfecture, et qui a pour objectif d'accompagner les femmes et les hommes touchés par le cancer, par tout type de cancer, entre l'annonce du diagnostic et la fin des traitements, voire la reprise professionnelle. Et si je l'ai créée, c'est parce que j'ai été moi-même atteinte de deux cancers du sein en même temps, avec une double ablation donc, qui s'est située fin janvier 2013 à l'âge de 48 ans. Et donc, Féminitude existe à partir d'un constat de manque. Donc on va expliquer peut-être tout à l'heure en quoi consiste concrètement Féminitude et qu'est-ce qu'elle peut apporter sur le terrain.
C'est dans le cadre d'une journée contre le cancer du sein, c'est ça ?
Alors, Féminitude fonctionne toute l'année, tout le temps. Pour autant, là c'est notre premier Octobre Rose, première manifestation que nous organisons pour Octobre Rose. Donc, nous avons souhaité mettre en place une pièce de théâtre qui est donc interprétée par Sabra Benarfa, qui est une comédienne professionnelle, metteur en scène et auteur, et qui s'est donc mise en scène dans cette représentation théâtrale qui s'appelle Je t'aime, parce qu'elle-même a été touchée par le cancer du sein il y a quelques années. Et elle a donc considéré que c'était un message à faire passer à toutes les femmes qui ont été touchées par le cancer du sein et de voir de quelle manière envisager chaque étape du parcours de soins entre l'annonce du diagnostic et la fin des traitements. C'est sous forme de scénette, c'est vraiment jubilatoire, c'est la place aux émotions, aux larmes, mais au rire aussi, à la dérision, et chacune d'entre nous peut se retrouver dans ce parcours qui est restitué par Sabra.
Je vais arriver un petit peu plus concrètement sur le cancer du sein. Quel est pour vous l'état actuel de ce traitement et est-ce que c'est toujours une espèce de roulette russe ?
Alors, le cancer du sein, comme bien d'autres cancers, mais c'est un cancer qui est bien cerné, pour lequel il y a de nombreuses actions qui sont mises en place, et je pense à la prévention. Donc, pour les femmes entre 50 et 74 ans, il y a donc un dépistage qui est organisé tous les 2 ans, donc une mammographie à faire, voire une échographie pour affiner l'examen et le diagnostic. Et le cancer du sein, effectivement, est très bien pris en charge dans la mesure où, grâce à ces dépistages, quelquefois, quand il y a cancer, il est pris suffisamment tôt pour que les traitements soient efficaces. Donc voilà, c'est un cancer qui est bien connu, qui est bien pris en charge, même si ça touche beaucoup de plus en plus de femmes. Donc on dit quand même une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein en France. Pour autant, il est très très bien traité, justement grâce à ce dépistage en amont et éventuellement aussi quand il y a eu cancer. C'est cette notion de surveillance sur les risques de récidive, donc avec une information qui est mise à disposition de toutes les femmes qui sont intéressées et de prendre en charge, je dirais, d'être actrice de leur parcours de soins.
Et vous disiez qu'il y avait de plus en plus de femmes atteintes. On peut en connaître les raisons ?
Alors, je ne suis pas médecin. Pour autant, je vous dirais que le cancer en général, le cancer du sein en particulier, a des causes multifactorielles. C'est vrai qu'il a été souvent évoqué des périodes de stress intenses, des chocs émotionnels. Malheureusement aussi, la pollution, l'utilisation des pesticides, voilà, c'est un ensemble de choses. L'obésité, le tabac, alors le tabac pour tout type de cancer, pour autant je connais des femmes atteintes de cancer du poumon qui n'ont jamais fumé. Mais voilà, il y a différents facteurs qui peuvent effectivement entrer en jeu dans la déclaration d'un cancer. Vous dire c'est une raison en particulier, c'est impossible de le faire et chaque cancer est différent, chaque femme et homme atteint par le cancer, chaque histoire est différente.
À ma connaissance, je connaissais quelques personnes qui ont voulu pratiquer le dépistage du cancer auprès des services compétents. Et souvent, c'était le parcours du combattant. Peut-être parce que la personne qui était responsable estimait qu'il n'y avait pas nécessité de le faire. Je ne comprends pas trop. Est-ce qu'il y a deux politiques sur ce niveau ou pas?
Alors, le dépistage, bon, là, je vous dirais que le docteur Étienne Paré, qui s'en occupe, puisque c'est le médecin coordinateur du GIP Prévention Cancer 2607, c'est une personne et avec son service qui s'occupe justement de donner l'information au plus large public sur quels sont tous les aspects de la prévention et quels sont les intérêts de la prévention. Donc ça se fait sous forme de conférences. Tout un chacun a accès à cette information, peut aller aussi sur le site internet de cet organisme. Et pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent trouver les informations. Je pense que lorsqu'on lit, on voit de plus en plus hein, des articles de journaux, de magazines qui traitent du cancer. Alors, on parle aujourd'hui du cancer du sein, mais l'information, elle se fait. Pour qui souhaite être informé, l'information est à disposition. Bien souvent aussi, les femmes, quand elles sont suivies par un gynécologue et même leur médecin traitant, celui-ci peut effectivement être sensibilisé en disant, voilà, vous rentrez dans l'âge pour lequel il est souhaitable de faire un dépistage tous les deux ans. Donc, cette information, elle est à disposition. Après, vous avez des femmes, effectivement, qui veulent le faire. Vous avez des femmes qui sont, que je rencontre, qui ont une certaine crainte à faire ce type d'examen parce que, justement, par souci de se dire, qu'est-ce qu'on va me trouver, qu'est-ce qu'on va découvrir. Il y a des femmes qui sont très en retrait par rapport à cet examen qui est bien souvent rebute parce que voilà, il s'agit quand on fait une mammographie de, pardonnez-moi l'expression, mais d'aplatir le sein ou les seins entre deux palettes pour arriver le plus possible à les faire radiographier. Donc voilà, il y a des femmes comme certaines, enfin moi en ce qui me concerne, le dentiste me fait partir en courant. Il y a des femmes pour lesquelles la mammographie les fait partir en courant. Donc voilà, je pense que si on cherche vraiment une information sur l'aspect dépistage, l'aspect surveillance et puis en quoi consiste donc toutes les données du cancer du sein. Je pense que voilà, on a tout ce qu'il faut à disposition pour être informé.
Et de nos jours, alors, quand il s'agit de pallier cette maladie, est-ce que la personne atteinte se sent bien environnée par rapport à cette démarche de guérison ou de traitement?
Alors, là, vous évoquez quelque chose. Enfin, il y a deux aspects que vous évoquez. Il y a d'une part le fait d'être, alors, en parcours de soins. Le parcours de soins, effectivement, se fait soit en milieu hospitalier public ou privé, donc au choix de la personne qui est concernée. Il y a effectivement cet accompagnement médical de la part des médecins, des chirurgiens, des oncologues, des infirmières et des psychologues qui se fait, voilà, tout au long du parcours. Donc, entre l'annonce du diagnostic et la fin des traitements. Après, ce qui est délicat, et c'est justement là-dessus que Féminitude intervient, c'est d'être en parallèle, je dirais dans un parcours parallèle avec le parcours de soins pour justement soulager les femmes et les hommes qui le désirent. Alors, bien souvent, c'est quoi? C'est lorsqu'on perd ses cheveux, c'est comment, est-ce qu'on met une perruque? Comment nouer un foulard si on veut, voilà, porter des foulards? Lorsqu'on perd ses cheveux, ses sourcils, ses cils, c'est comment se maquiller? Comment restituer des sourcils? Quand on les perd, je peux vous dire que toute l'expression du visage disparaît, on est bien souvent méconnaissable. Donc on a passé aussi deux partenariats avec deux écoles d'esthétique et de coiffure de Valence où les élèves esthéticiennes accueillent les adhérentes Féminitude pour, je dirais, les chouchouter. Nous proposons aussi des activités autour de l'art-thérapie, de la sophrologie, de la naturopathie, du travail d'écriture, de théâtre. Tout ce qui peut venir soulager les personnes qui sont en parcours de soins, parce que les parcours de soins sont très difficiles, je suis passée par là pour pouvoir le dire, avec des traitements agressifs. Et bien souvent, on est présent à un moment très particulier du parcours de soins, à savoir que entre l'annonce du diagnostic et la fin des traitements, notre quotidien, il est rythmé par des rendez-vous médicaux, de chimio, de radiothérapie, etc. Et puis, quand c'est terminé, l'oncologue, le cancérologue vous dit, ben voilà, rendez-vous dans 4 mois pour le premier bilan, et ce sera tous les 4 mois, pendant 3 ans, puis tous les 6 mois, pendant 2 ans. Et à ce moment-là, il y a un grand moment de panique chez beaucoup de femmes et d'hommes en disant, mais vous ne me revoyez plus, mais est-ce que je suis guérie? Est-ce que je peux reprendre le travail? Et si je reste récidive. Voilà, donc ça, c'est un moment. Et on remarque souvent un pic de dépression. C'est-à-dire les femmes, certaines femmes, certains hommes, pas tous, mais voient apparaître une espèce de dépression en se sentant, entre guillemets, lâchées. Lâché par le milieu médical, alors qu'en fait, voilà, ça fait partie aussi de ce parcours de soins, à un moment donné, de stopper les choses pour continuer à vivre le plus normalement possible. Et c'est là où on peut intervenir aussi.
Vous, en tant que Féminitude, donc, vous êtes là aussi pour accompagner ces personnes qui sont en voie de guérison.
Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout ce que j'aurais aimé trouver. C'est-à-dire, la première spécificité de Féminitude, c'est de rendre visite au domicile. On est vraiment les seuls à proposer ce concept-là parce que, étant passé par là à vivre une chimiothérapie, une radiothérapie, il y a une telle fatigue que sortir de chez soi, bien souvent, c'est un gros exploit. Donc, j'aurais bien aimé, moi, qu'on vienne frapper à ma porte pour échanger sur ce qui m'arrivait, pour m'aider en matière d'esthétique, parce que c'est la première chose à laquelle on pense, hein, pour retrouver l'estime de soi, c'est l'aspect esthétique qui se positionne en premier. Donc il y a cette notion, et je tiens beaucoup à ce mot, qui est le mot d'accompagnement. L'accompagnement se fait tout au long de ce parcours, alors avec l'accord des femmes et des hommes, bien évidemment. Quand ils ont envie d'arrêter cet accompagnement, il est également accepté. Et puis, il arrive à certains moments qu'il y a une récidive ou que les choses se passent plus difficilement. Mais nous ne sommes jamais, comme je dis souvent, nous ne sommes jamais bien loin.
On va venir au spectacle proprement dit, donc qui se jouera à Cray le jeudi 22 octobre à 20h30 à l'Eden. Hein.
À l'Eden, oui, tout à fait.
Vous pouvez nous parler un petit peu de Sabra.
Alors, Sabra Menarfa est une comédienne professionnelle qui est auteure, qui est metteur en scène, qui a connu le cancer du sein il y a quelques années et qui a décidé de transcender ce qui lui est arrivé sous forme donc d'une pièce de théâtre qu'elle a intitulée « Je t'aime » et qui est donc organisée de telle manière. Elle s'est mise en scène sous forme de scénette. Et ces scénettes donc retracent son parcours de soins entre l'annonce du diagnostic et la fin des traitements. C'était sa manière à elle de montrer aussi le j'ose dire, puisque je l'ai vécu et je rencontre d'autres femmes qui l'expriment ainsi, c'est cette espèce de se battre comme une lionne contre la maladie pour s'en sortir. Et je trouve que le projet de Sabra Menarfa est un très beau projet qui est donc maintenant qui est rodé, mettre en exergue un petit peu tous les aspects qu'elle a ressentis, aussi bien positifs que négatifs, hein, des choses, des phrases entendues, des comportements, des choses qui passent difficilement, surtout quand on est à fleur de peau. Et ça, c'est pas de notre fait, hein, c'est le parcours de soins ainsi fait, on est vraiment à fleur de peau. Et donc c'est intéressant de voir comment une comédienne traduit ce qu'elle a ressenti sur scène, où chaque femme qui a été touchée par le cancer, qui est touchée par le cancer, peut se retrouver d'une manière ou d'une autre. Et bien souvent, ça fait appel à des choses en disant « Tiens, oui, ça, je l'ai rencontré. Tiens, oui, ça, je l'ai connu. Ça, je l'ai entendu. » Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est cette pièce de théâtre qu'on a envie de proposer donc, au cinéma L'Eden, où il y a donc une place, 450 places pour pouvoir assister à cette représentation théâtrale. Et donc, je remercie au passage Jean-Pierre Point, donc le directeur de L'Eden, qui nous accueille pour cette magnifique soirée. Mais voilà, c'est une manière de transcender pour chacune d'entre nous au travers de cette pièce de théâtre ce qui nous est arrivé.
J'invite les auditeurs intéressés d'aller voir ce spectacle, de réserver, hein, puisque c'est conseillé.
Oui, tout à fait.
Au 06 74 47 26 10. Et sinon, vous avez un site internet www.féminitude.info.
You walk out your front door, out into sound and sun. And people say hello to you, and you say hello to everyone. The leaves are falling, down, into sound and sun. On the open sea, you, and you're not afraid of anyone.
Est-ce que vous avez des retours de ce spectacle? Enfin, comment dire? Est-ce que du milieu qui traite, milieu scientifique qui traite du cancer, avez-vous des retours de ce spectacle? Ou comment dire? Est-ce qu'il y a une collaboration qui a été établie aussi?
Oui, alors le spectacle n'a pas été encore vu puisqu'il aura lieu le jeudi 22 octobre à 20h30. Pour autant, il y a une collaboration qui est mise en place entre Féminitude et le milieu hospitalier public et privé. Donc, je pense par exemple à la plateforme de coordination en cancérologie de l'hôpital de Valence. Il y a cette ouverture de vis-à-vis de Féminitude pour, de temps en temps, nous adresser des patientes qui ont nécessité à rencontrer une association comme la nôtre. Voilà, donc tout le monde a été informé, vous avez l'affiche sous les yeux, donc tous les services par lesquels je suis passée, nous sommes passés, puisque je ne suis pas seule, il y a toute une équipe avec moi. Nous avons donc proposé les affiches, les flyers pour faire connaître cet événement. Et je peux vous dire qu'il y a un accueil très, très positif et très enthousiaste par rapport à cette pièce de théâtre, parce que ça change un peu de ce qui peut être organisé par ailleurs, comme des courses, des marathons. Voilà, je pense que le théâtre, moi, c'est quelque chose que j'aime profondément. Et lorsque j'ai découvert Sabra Ben Arfa, j'ai été très touchée par sa façon d'être au monde, par son jeu, par la voix qui est très intense, hein, et restituer sa propre histoire de cancer au travers de cette pièce de théâtre, je trouve que c'est quelque chose de magnifique à proposer. Donc tout le monde est intéressé, c'est-à-dire effectivement, au travers de la question que vous posez, les personnes touchées par le cancer, en particulier par le cancer du sein, mais tout le milieu hospitalier, toutes les équipes qui gravitent autour de nous dans le cadre de notre parcours de soins sont très sensibles à cette intervention-là.
Mis à part Je t'aime qui sera présenté, est-ce qu'il y aura dans le cadre d'Octobre Rose d'autres événements à peut-être indiquer aux auditeurs?
Oui, alors il y a effectivement, sur la Drôme, il y a pas mal de choses qui sont organisées. C'est vrai qu'il y a des conférences pour lesquelles je viendrai, qui sont organisées par la mairie de Valence. Il y a toutes sortes d'initiatives, hein, sur le département. Alors je ne suis pas un office de tourisme, donc je serais dans l'impossibilité de vous dire tout ce qu'il peut y avoir. Pour Octobre Rose, les manifestations sont très très nombreuses, donc en lisant le journal, en écoutant la radio, en demandant des informations autour de soi, on peut trouver des événements, des conférences, des points café sur lesquels on peut échanger par rapport à cette question du cancer. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour ce mois-là, donc c'est très intense, hein, comme activité au regard donc du cancer du sein, comme je le redis, c'est-à-dire que c'est quand même un événement qui est marqué sur toute la planète.
Qu'est-ce qui marque une femme à savoir d'être atteinte dans son intérieur?
Alors, vous parlez du cancer du sein? Alors, ça va rejoindre l'intitulé de l'association que je crée, c'est-à-dire ça touche à la féminité, essentiellement à la féminité. Donc, en ce qui me concerne, moi, je ne mets pas de joker, je le dis simplement pour ceux qui nous écoutent, voilà. J'ai eu deux cancers, ça veut dire ça a été double ablation des seins, ça veut dire il n'y a pas de reconstruction à l'heure actuelle pour le moment. Quand on perd ses cheveux, quand on perd ses seins, ses sourcils, tous les attributs féminins que la société nous renvoie, lorsqu'on perd tout ça, la question essentielle c'est où est ma féminité? C'est essentiellement ça qui est évoqué et qui bouleverse les femmes au point d'utiliser des termes comme c'est un tsunami, c'est un cataclysme qui me submerge et qui les font trembler sur la fondation. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui touche à la féminité, c'est quand même très très fort. Donc, c'est là où il faut les accompagner énormément parce que on a été récemment déclaré d'intérêt général par la préfecture et la dame qui instruit le dossier m'avait dit, mais la partie esthétique arrive quand même en premier, comment ça se fait? Et j'ai dit, mais vous savez, quand on perd les seins, quand on perd ces fameux attributs féminins, la première chose qui nous importe, c'est retrouver l'estime de soi au travers d'une féminité acquise à nouveau, avant d'intégrer des activités de balade, d'art-thérapie ou autre. C'est ne pas paraître malade, c'est rester femme, qui est important. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus et qu'on se réapproprie cette féminité sous un autre éclairage, qui est l'éclairage du cancer, déjà, ça fait énormément de bien.
Féminitude se consacre uniquement au cancer du sein ou traite aussi d'autres pathologies, par exemple ?
Alors, pas d'autres pathologies. Le point commun de Féminitude, c'est le cancer tout court. Donc voilà, c'est tout type de cancer. Les statuts donc spécifiques, ce sont les femmes et les hommes qui sont accueillis. Les enfants n'ont pas donc de situation pour le moment qui nous ont été soumises. Les hommes ont plus de difficultés à verbaliser leurs émotions, donc on les voit moins facilement. Ils auraient peut-être plus tendance à échanger sur ce qui leur arrive, voire sur leur conjointe touchée par le cancer. Je dirais avec des potes, avec des collègues, avec des copains, peut-être à une troisième mi-temps de match de football. Les femmes sont plus en demande de verbaliser ce qui leur arrive. Et donc le point commun, c'est tout type de cancer, parce que d'une part, le cancer du sein ne revêt pas toutes les caractéristiques de traitement. Il y a des femmes atteintes de cancer du poumon, des ovaires, de l'utérus que j'accueille et qui ont des traitements aussi agressifs que les nôtres. Donc voilà, ce point commun, c'est le cancer, c'est tout type de cancer. Et ensuite, c'est surtout se dire plus jamais seul, parce que bien souvent, la solitude, elle peut être prégnante. La précarité peut montrer le bout de son nez. On perd souvent, c'est le principe de la double peine, c'est-à-dire perdre en revenu, voire moi c'est ce qui m'est arrivé, perdre mon emploi. Donc il faut faire face à la maladie et en même temps il faut avoir les moyens de pouvoir faire face en prenant les services d'une naturopathe, d'une sophrologue. Voilà, donc Féminitude s'est donné pour objectif également de, en plus des visites que moi j'effectue à domicile, des rencontres qu'on fait chez soi, c'est de proposer des services de professionnels autour des 5 pôles géographiques que nous développons, que sont donc Dicré, Valence, Montélimar et Romans. Des professionnels qui sont des professionnels libéraux dans des domaines que j'ai justement cités et qui donnent de leur temps gratuitement pour les adhérents de Féminitude et pour les soulager à titre gracieux, parce que justement ça évite d'investir financièrement, ce que beaucoup ne pourraient pas faire.
Le sentiment partagé en général par toutes ou tous, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un environnement au niveau du traitement qui vous sécurise ou alors est plutôt inquiétant ?
Alors l'accompagnement médical a ce côté rassurant de dire nous avons des traitements pour lutter contre le cancer, avec des médecins qui pour certains d'entre eux vous disent gardez la niaque, on va se battre ensemble pour lutter contre votre cancer. Donc ça c'est un discours qu'on apprécie énormément de la part de certains médecins qui le formulent. Bien sûr que c'est sécurisant de se dire voilà, il y a des protocoles, même si le fait de dire il y a des protocoles, on a l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres et que c'est pas très personnalisé. Il y a alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans le milieu médical, ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire où il y a différents médecins autour de la table et qui vont donc discuter de chaque dossier, donc entre autres du vôtre, pour savoir quoi faire, comment le faire. Voilà. Ça, c'est un côté sécurisant. En même temps, je vais être très claire aussi, puisque je l'ai vécu, c'est un côté flippant. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui nous attend, comment les choses vont se passer. J'ai entendu dire qu'avec la chimio, on va être malade comme un chien, que la radiothérapie, ça brûle, ça fatigue. Voilà, il y a aussi des rumeurs, des choses qu'on entend, des choses qui sont déformées, amplifiées. Et on a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Donc, le milieu médical, oui, peut rassurer. Il est très important de le garder intact. Ça n'empêche pas à côté, et là je le dis vraiment de façon marquée, on n'est pas sur de la médecine alternative ou de la médecine parallèle, voilà, c'est surtout la médecine parallèle. On peut proposer des choses, comme Féminitude le fait, en accompagnement et en parallèle du traitement conventionnel de lutte contre le cancer. On ne peut pas annihiler, supprimer ce parcours de soins suivi donc par des cancérologues, des médecins, des chirurgiens, des infirmières. C'est essentiel. Maintenant, c'est vrai que la spécificité de Féminitude, c'est d'être hors milieu hospitalier, d'accompagner les personnes hors milieu hospitalier. Et souvent, quand des patientes me sont adressées et que nous échangeons chez elles, je leur demande souvent si elles acceptent que le contenu de notre entretien, ce que nous faisons ensemble en termes d'activité, soit restitué au service qui me les a adressées. Et bien souvent, elles sont tout à fait d'accord parce que même si elles ont besoin de voir quelqu'un comme moi qui est passé par là et hors milieu hospitalier, ça les sécurise néanmoins de savoir que je garde un lien avec la structure hospitalière, qu'elle soit publique ou privée, qui m'a adressé cette personne. Donc c'est un côté quand même sécurisant et je pense que pour l'avoir vécu, on se dit qu'on a affaire à des équipes qui savent de quoi elles parlent et que voilà, il faut suivre les choses. De temps en temps, on vous dit souvent, soyez actrice ou acteur de votre parcours de soins. Donc, de temps en temps, c'est ce qui me fait poser énormément de questions d'ailleurs. Et donc, j'ai besoin de réponses, comme beaucoup de gens. Mais voilà, on a affaire à des gens qui savent de quoi ils parlent.
La création de Féminitude, pour vous, pallie la carence qu'on pouvait trouver à un moment donné dans l'accompagnement des traitements?
Alors, vous allez dire, je vais prêcher pour ma paroisse, mais si Féminitude a été créée, si j'ai créé Féminitude l'année dernière, c'est parti d'un constat de manque. Bien sûr qu'il y a d'autres associations qui s'occupent de personnes atteintes de cancer, mais là, on n'est pas sur une association qui récolte des fonds pour des causes particulières. On est sur une association qui s'occupe d'accompagner les femmes et les hommes tout au long de leur parcours de soins, jusqu'à même la reprise du travail, qui est bien souvent d'ailleurs très délicate. Hein. C'est des reprises à mi-temps thérapeutiques, avec une grosse difficulté de réintégrer le service dans lequel on travaillait, parce que l'équipe a dû se réorganiser de manière différente. Mais là, on n'est pas sur de la récolte de fonds, comme beaucoup d'associations font, pour la bonne cause, pour certains centres, comme Léon Bérard, etc. Là, on est vraiment, nous, sur du service apporté aux femmes et aux hommes qui en ont besoin pendant qu'ils ne sont pas bien. Donc, c'est essentiellement ça. Je pense, en l'occurrence, par exemple, à quelque chose qui a été mis en place. Nous avons donc créé les balades plaisir, parce que ce qui aide aussi à revenir en santé, comme disent les Canadiens, c'est l'activité physique est essentielle. Et nous organisons donc des balades plaisir en partenariat avec le club de randonnée pédestre de Chabeuil, qui est le premier club de randonnée pédestre à obtenir donc récemment, là, quelques jours, le label Rando Santé. Et le label Rando Santé, c'est un petit peu tout le contraire de ce que Pierre de Coubertin disait. Là, nous allons, dans le cadre de nos balades, moins vite, moins loin, moins longtemps. C'est de respecter nos limites pour chacune d'entre nous, parce qu'il y a une grande fatigue par rapport au traitement que nous avons subi. Également, de respecter aussi nos possibilités, parce que voilà, il y a des moments où on peut arriver au-delà de ce qu'on pensait. Et puis, ce qui est essentiel aussi, ce sont des balades qui se passent, je dirais, autour de quelque chose de positif, de vivant, de jubilatoire, avec une découverte de la faune, de la flore, avec un dénivelé assez faible, et ce qui permet en plus, lorsque le dénivelé est faible, de laisser du souffle à tout le monde, parce que les femmes ont besoin, en particulier celles que je connais, d'échanger autour de leurs propres ressentis. Et ça soulage bien souvent de se dire, voilà, je suis pas la seule à ressentir de la fatigue, quelques pertes de mémoire suite à la chimio. Donc voilà, ça sécurise aussi, mais surtout on fait quelque chose de façon très, très joyeuse. Hein. Voilà, ça c'est important. Il y a possibilité de mettre l'affiche sur votre site internet.
Oui.
On trouve effectivement l'affiche aussi sur notre site internet www.féminitude.info singulier. Nous avons également une page Facebook Féminitude qui est très très réactive à tous les événements qui sont organisés. Et donc voilà, on peut trouver l'information très très rapidement concernant ce spectacle. Et puis découvrir bien sûr l'association Féminitude.
Voilà, et en passant sur le site, on peut y trouver toutes les informations qui vous concernent.
Exactement, c'est-à-dire que là, ça permet de découvrir l'association, je dirais même l'esprit de l'association, au travers de ma propre expérience, et dans laquelle bien souvent des femmes et des hommes peuvent se retrouver. Alors même si ça s'appelle Féminitude, ça intéresse certains hommes qui vont au-delà de l'appellation de l'association, parce que je dis souvent, mais ça c'est pas, je l'ai pas inventé, mais il y a toujours une part de féminité dans chaque homme, donc voilà, tout le monde est concerné.
Patty Walter Martin, merci d'être venue nous parler de Je t'aime,
merci.
Dans le cadre de Octobre Rose 2015.
Merci Yves.
Dans le cadre de Octobre Rose et par rapport à la pièce « Je t'aime », nous accueillons aujourd'hui Sabra Benarfa, qui va nous parler de son spectacle autobiographique.
Oui.
Sabra, est-ce que tu nous proposerais peut-être un extrait ?
Oui, pourquoi pas. En fait, le spectacle est construit en 9 textes et 9 tableaux. Donc, ce que j'ai appelé des tableaux, c'est des moments pas du tout intellectuels, voilà, où ça danse, où ça... où ça donne des choses un peu plus... étrange peut-être, mais où moi je m'amuse bien, parce que mon métier c'est quand même le théâtre d'abord et avant tout. Et puis de 9 textes qui eux relatent vraiment le cheminement du moment de l'annonce du cancer, donc le choc du diagnostic, jusqu'à la fin de la radiothérapie. Voilà, donc ça s'arrête là au niveau de la relation. Et après, il reste un dernier texte, le numéro 9, qui relate un an plus tard ce qui se passe. Parce que je trouvais important de parler qu'est-ce que je suis devenue un an plus tard. Est-ce que j'ai changé complètement? Est-ce que j'ai ressemblé à ces fameux livres qu'on voit souvent à la FNAC ou ailleurs, chez les libraires, préférez les libraires s'il vous plaît, je vous le dis en passant, qui disent oui, voilà, grâce à mon cancer, j'ai changé du tout au tout, je suis devenue quelqu'un d'autre et tout. Ben moi, j'ai pas eu cette chance-là. Je dois avouer que après mon cancer, ben j'étais toujours sa bras avec ses problèmes, avec les difficultés, avec les petites névroses et avec ses joies, ses peines, etc. Quoi. En tout cas, je peux pas dire que ça m'a transformée complètement d'avoir eu un cancer, enfin d'avoir eu une maladie mortelle, parce que je pense que c'est surtout ça qui est en jeu. Mais il y a une chose qui est advenue très certainement, c'est que la vie n'a plus jamais été la même. C'est-à-dire que le choc lui-même du diagnostic fait qu'on passe de l'autre côté du miroir et on n'y retourne pas de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je donne... voilà, il y a ce texte de l'annonce du diagnostic, justement, chez le chirurgien, et où il va, après l'annonce du diagnostic, où le chirurgien va me dire ce qui va se passer, quoi. Voilà.
Eh bien, nous t'écoutons. Nous
d'accord. T'écoutons. Texte 2. Le choc du diagnostic. J'ai une maladie mortelle. Oh oh Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que je vais mourir là maintenant. Là, instantanément, devant vous, là. Ah, je suis pas prête. Bon ben j'arrête de fumer alors. J'ai le cancer du sein droit. Il porte un nom très compliqué. Adénocarcinome canalaire infiltrant moyennement différencié. Il est évolutif, très agressif, du feu pur. Et je suis jeune. 45 ans. À l'hôpital de Die, dans le cabinet du chirurgien, le docteur Kayolek. Il y a mon ami, rencontré très récemment, ébahi, tendre, me rassurant du mieux qu'il le peut de ses yeux bleus, de son immense sourire plein de dents blanches. Il y a une infirmière, absolument navrée. Et il y a le docteur Kayolek, chirurgien, efficace, clair. Madame Ben Arfa, mademoiselle, oui, mademoiselle Ben Arfa, si vous voulez, je vais prélever 8,5 cm de votre sein, c'est-à-dire à peu près la taille d'une balle de ping-pong. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Madame Ben Arfa, vous m'entendez? Mademoiselle Ben Arfa, oui, mademoiselle Ben Arfa, si vous voulez. Je vous dis que vous avez beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir garder votre sein, vous comprenez? Allons, Madame Ben Arfa, ne soyez pas si dramatique, tout va très bien se passer, je vous ferai une très belle cicatrice. Madame Ben Arfa, vous m'entendez? Mademoiselle, ce cancer me rappelle à qui je suis. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là? Quel est le sens de ma vie? Oh, ma vie a un sens? Mais je n'y avais jamais pensé. Depuis que mon fils est né, j'ai toujours pensé qu'il fallait continuer à vivre pour lui. Être heureuse, j'y ai jamais réellement cru. Je crois plus à tout ce que je croyais avant. Être heureuse, devenir la femme de quelqu'un, lui porter ses enfants, ou alors devenir une grande vedette, très belle, très jeune, très mince, très riche, très douée, très simple, très seule. Ah, ou alors une yogini tibétaine avec une très longue tresse noire, comme ça, sur le côté, souple et silencieuse, explosée d'arc-en-ciel. Ou bien une blonde évanescente, mystérieuse, inconnue, qui se fait toujours sauter dans le train par Gary Grant, qui meurt jamais, comme dans le film d'Hitchcock. Bon, ben, j'ai un sens tout tordu de la vie, hein. Blessé, noueux, comme un vieil olivier.
Merci Sabra.
Ça va ?
Oui. Tu as pu utiliser les noms véritables ?
Non, j'ai changé les noms.
Très bien, parce que là, je suppose qu'ils ne seraient pas d'accord, tout simplement.
J'en sais rien.
Tu ne sais pas ? Tu ne t'es pas renseigné là-dessus ?
Mais je sais que certains médecins de 10 sont venus voir le... Enfin, mon médecin traitant, en l'occurrence, je ne vais pas le citer, est venu. Le chirurgien en question, là, je ne crois pas, mais je crois qu'un des deux chirurgiens est venu. Un des deux. Mais je ne les citerai pas.
Et il est venu vous parler ensuite de ce spectacle.
Alors, oh là là, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais c'est possible, hein, c'est possible. De toute façon, le spectacle n'a pas tourné au règlement de compte avec la médecine, hein, pas du tout. Hein. Ce qui était important pour moi, c'était plutôt de faire entendre, comment dire, la voix du patient. Évidemment que j'espère que les soignants l'entendent, que ce soit des voilà, à Bruxelles, quand je l'ai joué au Théâtre de Poche, il y avait toute une école d'infirmières qui était là, et c'était vraiment important, parce que je crois que ça n'arrive pas très très souvent que le soignant puisse s'exprimer comme ça. Et bon, voilà, ici, voilà, moi, il y a des choses dans le petit texte, enfin, peut-être que ça fait rire que moi, mais moi, ça me fait rire, voilà, je trouve ça drôle. voilà, bon, je m'amuse aussi, quoi, hein.
Sabra, je voulais savoir, quand on apprend que l'on est malade avec de cet ordre-là, comment voit-on le reste du monde ? Sabra, quand on apprend d'être malade de ce cancer, quelle relation avez-vous eue avec les personnes environnantes ? Est-ce que ça vous a... Est-ce qu'il y a des choses qui, tout d'un coup, semblent très importantes et d'autres beaucoup plus subalternes ?
Oui, on peut dire qu'il y a un effet comme celui-là pendant un certain temps, effectivement. Ça confronte sur le fait de rester en vie, du lien à la vie, et puis ça confronte aussi pourquoi ? Hein ? Alors ça, c'est vrai, pour ma part, je ne me suis pas trop demandé pourquoi. Très vite est venu parce que, mais vraiment, hein, dans les jours qu'on suivit, quoi, l'annonce du diagnostic, ça a été parce que. Et en plus, ce qui s'est passé ici, c'est que c'est moi qui l'ai repéré, ce cancer. Parce qu'au départ, les soignants me disaient que, que j'étais trop émotionnelle, sans doute dû à mon métier, puis mes origines tunisiennes, etc. Ce qui est vrai, hein, tout à fait vrai. Mais d'un autre côté, moi, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'étais sûre que ce n'était pas bon, ce truc, quoi. Donc, ils m'ont rassurée, évidemment, du mieux qu'ils ont pu. Et c'est bien, et c'est fort bien qu'ils le fassent comme ça. Mais moi, je suis têtue et je n'ai pas lâché le morceau. Et j'ai vraiment insisté jusqu'à ce qu'on fasse la biopsie. Et quand on a fait la biopsie, malgré ce qu'on m'avait promis, voilà, on m'avait dit, écoutez, franchement, il y a un soignant, on m'avait dit ça. Il m'a dit, vraiment, vous inquiétez pour rien parce que c'est minuscule. Il y a probablement une chance sur un million que ce soit un cancer. Ben voilà, on a tapé dedans, quoi. C'était la chance sur un million, alors, du coup. Et là, évidemment, on est allé très, très vite. Hein. Ils ont été super à l'hôpital de Die, parce que j'ai été opérée, mais vraiment, vraiment très, 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 très vite. Parce que la jeunesse jouait contre moi. Le cancer était très agressif, pas cool du tout. Et du coup, ben, pas vraiment différencié non plus. Enfin, ceux qui savent un peu de quoi ils retournent, ben, c'était pas le top, quoi. Et mes 45 ans jouaient vraiment contre moi. Ça, c'est... Et on a bien fait, parce qu'il y avait quand même deux ganglions métastasiés, quoi. Ouais.
Est-ce que, je pose une question, quand vous utilisez le terme qui désignait votre maladie, c'est-à-dire, je n'ai plus en tête...
L'adénocarcinome.
Voilà. Oui. Est-ce que ces mots n'ont pas tendance, dans le profane, d'amoindrir le mal ?
Oui, oui. Oui, oui, je pense que mon médecin traitant à l'époque me l'avait annoncé comme ça. D'ailleurs, c'est au début du spectacle, ça. Je l'ai mis, ça, dans le début du spectacle, parce que tout de suite, je lui ai dit, mais je crois même pas que j'étais arrivée à prononcer le mot. C'était très compliqué, j'arrivais pas à le dire, quoi. Et alors, j'ai dit, mais enfin, ce que vous avez dit, là, c'est un mot pour dire cancer, ça, ou c'est quoi ? Est-ce que c'est autre chose qu'un cancer ? C'est quoi ? Et alors, il m'a dit, oui, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est un cancer.
Des mots qui rassurent quelque part, dans la mesure où ils ont un dénominatif pour attribuer cette maladie, un nom à cette maladie.
Ouais.
On se dit, bon, bah, c'est quelque chose d'assez courant, ouais, au final.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, c'était il y a 11 ans déjà. Hein. Depuis, c'est une explosion absolue de gens qui ont des cancers. Je crois qu'aucun de nous, aujourd'hui, ne connaît pas quelqu'un qu'en a eu un ou qu'en a un. Ou, enfin, c'est terrible, quoi. C'est assez impressionnant. Mais à l'époque, c'était un peu moins, je dirais, si j'ose dire. Et je pense aussi que c'est confrontant, pas seulement pour le patient, pour la personne qui est malade, mais c'est confrontant aussi pour le soignant. Et que peut-être, des fois, certains soignants sont aussi confrontés à leur propre corps, à leur propre peur de la mort, de la maladie, tout ça, et que peut-être c'est parfois difficile de dire certains mots.
Sabra, après cet épisode, aux femmes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ?
D'abord de se palper, hein, les femmes, je vous en prie, palpez-vous, demandez à vos conjoints, à vos amoureux, et amoureuses d'ailleurs, parce que une autre personne peut le sentir aussi, quoi, voilà, se palper sous la douche, quand on se lave par exemple à main nue, hein, sans le gant de toilette, on peut sentir, quoi, on sentir un peu en dessous des bras, sentir les ganglions, tout ça. Et puis s'il y a une petite boule, ne présumez de rien, il faut faire la biopsie, absolument, il faut pas... Faut pas accepter, désolée pour les soignants, mais je veux bien qu'on se parle après s'ils veulent, hein, mais il faut pas présumer. C'est zéro chance, il faut courir zéro chance, il faut faire la biopsie et il n'y a que ça qui peut nous dire si c'est bénin ou malin. Voilà.
Ça fait combien d'années que ce spectacle existe ?
Alors il est né 2 ans après la dernière chimio, ça a été assez vite en fait, hein. Parce qu'en fait, j'ai pris des notes. Je suis du théâtre, hein, moi, j'ai fait mon premier spectacle à 16 ans, j'en ai 56, ça fait 40 ans, quoi. Donc, je savais que je ferais un spectacle sur le cancer après ça. Oui. C'était l'évidence, parce que je croisais trop de personnes dans les couloirs à Valence ou à Léon Bérard et tout ça, qui avaient l'air absolument largués. J'ai entendu trop d'histoires où les gens n'en parlaient pas, osaient pas en parler. Y a même des gens qui osaient pas me toucher parce qu'ils avaient peur que ce soit contagieux. Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Mais ça, c'est au-delà du cancer. Ça, c'est tout le lien de notre civilisation à l'heure qu'il est, à la maladie et à la mort, et où on essaye de tout planquer, quoi.
Oui, une espèce de pudeur.
Ouais. Non, je pense que c'est de la peur. Si c'était de la pudeur, c'est une chose, mais je pense que c'est de la peur, surtout. De nommer les choses, de leur donner un nom. Et puis là, je dirais qu'il y a aussi, parce qu'on ne va pas en philo avec ça, alors on devrait aller en philo avec ça. La maladie et la mort. Voilà.
Alors donc, ce spectacle sera joué à l'Éden le 22
octobre,
à 20h30.
Ouais, absolument.
Il existe donc là-bas une organisation qui est gérée par Patty Walter Martin.
Absolument.
Et que je l'ai reçue moi-même la semaine dernière.
Oui.
Elle me disait qu'il y avait à peu près actuellement une femme sur 8 atteinte de cette maladie.
Oui.
Est-ce que vous, ayant côtoyé ce problème, vous avez enquêté un peu sur cette maladie ? Quels sont les facteurs qui provoquerait cette maladie, particulièrement au niveau des femmes? Parce que, par exemple, il y a la rumeur qui dit que la pilule pouvait générer ce type de maladie.
Oui. Bon, moi, je ne vais pas donner une réponse de soignant, évidemment, hein, ce n'est pas mon boulot. J'ai pas trop, non, contrairement à certaines de mes amies et amis, j'ai pas tellement cherché sur Internet et tout ça. Mon idée, donc ça n'engage que moi encore une fois, c'est qu'il y a plein de facteurs. À avoir un cancer ou autre chose, ou la crise cardiaque, mais surtout le facteur principal, très certainement, c'est la vie, quoi. Parce que quand on vit, la maladie, elle fait partie de la vie. Mais surtout, ce qui me semble très important, c'est que le temps de la maladie, ce n'est pas le temps de la mort. Voilà. Et que sur la mort, je pense qu'on peut se rassurer parce qu'on n'est jamais en même temps qu'elle, au même endroit, au même moment. Je veux dire, quand la mort est là, c'est qu'on n'y est plus. Et du coup, on est tranquille. Et si on y est, ma foi, c'est qu'on est toujours vivant. Et donc, on n'est pas mort. Et puis, c'est en soutien aussi à Féminitude, bien sûr. Et puis, je les remercie infiniment de m'avoir invitée, vraiment. Comme une princesse, hein, on peut le dire. Et puis, je voudrais remercier aussi le Théâtre du Fenouillet à Saint-Gervais-sur-Aubion, parce que quand le spectacle a été créé, j'ai été en résidence au Théâtre du Fenouillet. Donc, je remercie M. Alain Boguil et toute son équipe, parce que c'est grâce à eux, grandement, que ce spectacle est né. Voilà.
Eh bien, Sabra, merci d'être passée.
Merci
à vous.
Et puis,
bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bear.